Sud Radio, service compris.
Véronique Jacquier. Service compris, l'émission qui vous aide à trouver des solutions pour votre vie quotidienne, pour la facilité. Le mercredi, une page santé, comme le lundi d'ailleurs, hein, de 12h40 à 13h20, mais là c'est de 13h20 jusqu'à 14h. Une page santé avec le professeur Boyan Christophorov. Bonjour professeur.
Bonjour Véronique.
Gastro-entérologue, ancien chef de service à l'hôpital Cochin. Autant dire que vous en avez vu hein, dans votre longue carrière, des pathologies, des gens à soigner. Et j'ose dire que vous êtes un petit peu notre monsieur réponse à tout. En matière de médecine, même si un médecin n'aime pas qu'on résume comme ça les choses, forcément.
Hein. C'est gentil.
Voilà, alors aujourd'hui on va parler de l'ulcère, très important parce que j'aimerais qu'on batte quand même en brèche une idée ô combien reçue. Je stresse, j'ai fait un ulcère, c'est même devenu presque une expression courante. Attention, je vais me faire un ulcère si un tel me contrarie un peu trop. Eh bien, l'ulcère, un Français sur 10 est touché en moyenne au cours de sa vie, c'est beaucoup quand même, non, statistiquement?
C'est vrai, c'est beaucoup. C'est un Français sur 10, plus exactement un homme sur 10 dans le monde.
Un homme
car
sur 10 et les femmes alors?
C'est en train, pareil.
Ah bon,
les femmes sont des hommes comme les autres,
ah
vous
bon,
savez.
D'accord, oui.
ça diminue énormément à cause de la régression du microbe qui est la cause de l'ulcère.
Voilà, donc l'ulcère n'est pas dû au stress.
Non.
Sauf énorme stress, non?
Non, alors c'est une autre catégorie.
Ah.
On appelle ça l'ulcère de stress. Ça se passe en réanimation.
Alors expliquez-nous, c'est important.
Ce sont des gens dont la tension artérielle a chuté de façon dramatique. Une partie de l'estomac est mal irriguée par le sang parce que les vaisseaux se sont spasmés. Et à ce moment-là, cette partie se nécrose, se mortifie. Et lorsque le sang revient, lorsque ça va mieux, eh bien, ça peut saigner sur cet endroit. Mais ça se passe dans des grandes catastrophes et de plus en plus, les réanimateurs savent prévenir cette ulcère.
Voilà, donc c'est rarissime et ça reste...
Les grands brûlés, les grands blessés, etc.
Voilà. Ben heureusement, ça reste rarissime, oui. Alors parlons entre guillemets de l'ulcère. Qui est beaucoup plus commun et qui est donc dû à une bactérie.
Absolument.
Mais on va rentrer dans le détail, mais depuis quand on sait que c'est dû à une bactérie?
Mais on sait ça depuis 1982-84.
Et alors, comment explique-t-on qu'il y a encore autant d'idées reçues par rapport au fait que c'est provoqué par le stress?
Vous savez, ce n'est pas les seules idées reçues qui traînent et les seules idées fausses. Donc, il faudra attendre, petit à petit, la vérité va se propager.
Donc l'ulcère est dû à une bactérie, donnez-nous son nom parce que c'est un nom marrant quand même.
C'est un nom marrant comme tous les noms latins, c'est Helicobacter pylori.
Helicobacter pylori, et vous l'avez évoqué, l'ulcère est en voie de disparition parce que maintenant on a trouvé cette bactérie et on arrive à la traiter.
Oui, mais peut-être auparavant d'ailleurs, lorsqu'on administrait des antibiotiques à des gens pour d'autres choses, on a éradiqué des hélicobactères et c'est ce qui explique que dans le monde occidental, l'ulcère a commencé à diminuer avant que l'on découvre cette origine bactérienne.
Mais comment on attrape cette bactérie?
Eh bien, on l'attrape en général dans sa petite enfance. Vous savez, les enfants mettent tout à la bouche et puis ils se passent les uns les autres
des cochonneries,
des cochonneries ou des jouets. Et donc, ça s'attrape, c'est une contamination interhumaine. Alors, les enfants, soit ne ressentent rien, soit ils font une petite gastroentérite, ils en font tout le temps et on ne se rend pas compte que c'est l'hélicobactère pylori. Et une fois passé cet épisode aigu, l'hélicobactère, qui est un hôte prudent, vit à la surface de la muqueuse de l'estomac sans se faire remarquer.
Donc la bactérie peut rester dormante comme ça des années?
Toute la vie.
Mais en règle générale, elle se réveille quand on est jeune, quand on est vieux?
Elle se réveille dans des moments que l'on ne peut pas prévoir, mais tout au long de la vie.
Alors, vous allez dire que je suis tenace, mais est-ce qu'elle ne se réveille pas quand il y a justement un accident de stress ou une grosse fatigue? Est-ce qu'il n'y a pas des événements qui peuvent être déclencheurs quand même, non?
Je ne crois pas.
C'est pas prouvé.
Voilà,
d'accord.
On peut avoir l'opinion que l'on veut sur ce point, mais ce n'est pas prouvé.
Bon, donc, bonne nouvelle, on a trouvé l'origine de l'ulcère. Maintenant, existe-t-il plusieurs sortes d'ulcères? Parce qu'on entend parler d'ulcères gastro-duodénaux et d'ulcères gastriques.
C'est la même maladie. C'est la même maladie qu'elle se situe au niveau de l'estomac. En général, c'est dans la partie vers la fin de l'estomac, près du pylore, ou bien dans le bulbe duodénal. La seule différence, c'est que l'ulcère de l'estomac peut dégénérer en cancer.
Ah, l'ulcère de l'estomac.
Ce qui n'est pas le cas de l'ulcère du duodénum.
D'accord. Alors, pour être très précis, le duodénum, c'est situé où?
Le duodénum, c'est juste après. Vous voyez, il y a l'estomac, c'est une grosse poche. Ensuite, il y a le pylore. qui est un sphincter, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une valve qui se ferme. Et ensuite, le duodénum, c'est le début de l'intestin grêle. C'est là où se fait la digestion.
D'accord. Donc, un ulcère qui dégénère en cancer, il faut quand même rassurer nos auditeurs, ça reste rare.
Ça reste rare, mais on dit, voilà, lorsque les gens sont contaminés par l'Helicobacter pylori, 10% parmi eux feront un ulcère gastrique ou duodénal et 1% aura un cancer.
D'accord. Quel traitement ?
Le traitement, c'est un traitement antibiotique. Il faut plusieurs antibiotiques avec aussi des médicaments qui stoppent la fabrication d'acide. Il y a une recette qui est bien mise au point et que les médecins peuvent appliquer.
Et alors, évidemment, on va parler du béaba de l'ulcère, c'est-à-dire comment a-t-on mal ? Comment est-ce qu'on diagnostique comme ça ? Parce qu'on dit souvent, ah, j'ai mal au ventre, j'ai sûrement un ulcère. Mais non, mais ça c'est du fantasme aussi.
Ce sont des douleurs qui sont particulières parce qu'elles siègent au-dessus du nombril, parce qu'elles sont rythmées par les repas, c'est-à-dire que l'on mange, ensuite il y a une période sans douleur, et ensuite apparaît la douleur. Et cette douleur, souvent, elle est calmée par l'alimentation. On mange quelque chose et la douleur se calme. Ça représente la moitié des ulcères. Dans l'autre moitié, soit la douleur n'est pas typique, c'est une vague douleur, soit même il n'y a pas de douleur et l'ulcère peut se révéler par une complication.
Ah d'accord, mais ça veut dire que quelque part, de toute façon, l'ulcère fait savoir qu'il est là pendant la période digestive.
Pour la partie douloureuse.
Voilà, pour la partie douloureuse,
voilà, tout à fait.
Dernière question avant d'accueillir les auditeurs de Sud Radio. Hein. On va rentrer dans le détail en passant, si j'ose dire, aux travaux pratiques avec eux via le 0826-300-300, via notre boîte mail contact@sudradio.fr et via notre page Facebook Sud Radio Servi Compris. Et évidemment, c'est tout de suite qu'il faut appeler parce que le temps passe très vite avec le professeur Boyan Christophorov. Vous l'avez dit, l'ulcère est en voie de régression dans les pays occidentaux. Ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de cas dans certains pays du monde, dans le tiers-monde par exemple.
Absolument.
C'est un fléau même. Enfin, le mot fléau est peut-être un peu trop fort.
Ça fait partie du folklore de la santé publique. Mais il y a des pays, par exemple, comme le Bangladesh, où 98% de la population est porteuse de l'Helicobacter.
Ah oui, d'accord. Et donc, statistiquement, est-ce qu'on sait, parce que j'imagine que des médecins ont étudié ça, 98% de la population touchée, combien de cas près d'ulcères ?
Il y a beaucoup d'ulcères, ils ne sont pas toujours chiffrés. Mais je vous rappelle aussi que le cancer de l'estomac est un cancer qui touche l'Asie, notamment la Chine, où c'est un très gros problème.
D'accord. Betty, bonjour et bienvenue sur Sud Radio.
Oui, bonjour Véronique, bonjour à tous.
Bonjour Betty.
Professeur. Alors moi j'aurais une question sur, j'aurais aimé savoir s'il y a des dispositions pour avoir des ulcères, surtout au niveau morphologique.
Au niveau morphologique, non. Ça veut dire si vous êtes grand, corpulent, maigre, non. Non, il y a des situations qui le favorisent, c'est par exemple l'abus du tabac.
Ah oui, voilà, on n'en a pas parlé. L'abus du tabac favorise l'ulcère.
Ça aggrave le risque.
D'accord, et le fait de trop boire ou d'avoir une vie un peu fêtarde ?
Non, pas spécialement. Si on a une cirrhose du foie par alcoolisme, oui, le risque est augmenté, mais ce sont des nuances.
D'accord, bon, vous êtes rassurée Betty ?
J'aurais aussi une deuxième question.
Oui, allez-y.
J'ai entendu dire qu'il fallait pas prendre d'anti-inflammatoires quand on a un ulcère. Et j'aurais aimé savoir si c'était vrai.
Absolument. C'est absolument vrai. Les anti-inflammatoires, l'aspirine, sont des médicaments qui peuvent déclencher une complication et notamment une hémorragie. D'autre part, les anti-inflammatoires donnent lieu à des ulcères qui sont des ulcères médicamenteux, qui sont différents de la maladie dont nous parlons, et cela peut suffire à les donner. Donc les anti-inflammatoires sont à utiliser de façon prudente.
Voilà.
Et lorsque l'on les donne de façon prolongée, on ajoute un médicament qui arrête la fabrication d'acide par l'estomac, de telle manière que l'on protège l'estomac.
Oui, mais professeur, pour aller plus loin que la question de Betty, vous avez évoqué la prise d'antibiotiques pour être traité. C'est la seule voie valable ?
Pour éliminer le microbe,
ah,
oui, bien sûr.
Voilà, pour éliminer le microbe. Mais et les pansements gastriques, c'est quoi ?
Les pansements gastriques sont très utiles pour calmer la douleur.
D'accord. Betty, ça va ? Vous êtes rassurée là ?
Parfait, parfait, merci beaucoup.
Merci Betty pour votre intervention sur Sud Radio dans Service Compris. Une question sur notre page Facebook, Sud Radio Service Compris, bien entendu. Allez-y, hein, profitez de la belle expertise du professeur Boyan Christophorov qui nous éclaire sur l'ulcère aujourd'hui. Alors, c'est Gaëtan qui nous dit « Bonjour, mon fils de 16 mois a passé une fibroscopie hier et il a un ulcère important de l'œsophage. Il est donc sous traitement de Mopral pour 3 mois et il devra refaire une fibroscopie à la suite de son traitement. » Cet ulcère serait dû à une hernie, mais des prélèvements gastriques ont été effectués et sont en cours d'analyse. Je suis très inquiet, est-ce grave ? Merci pour votre réponse, professeur.
Ne soyez pas inquiet. L'ulcère de l'œsophage, ce n'est pas l'estomac. L'œsophage, c'est le tuyau qui conduit depuis la bouche, depuis la gorge, jusqu'à l'estomac. Donc la cause de cet ulcère, c'est la hernie qui occasionne un reflux. Ce reflux, le contenu acide de l'estomac remonte dans l'œsophage et y fait des dégâts. Et le traitement qui a été le sien est parfaitement adapté. On va diminuer la fabrication d'acide et l'œsophagite, l'ulcère de l'œsophage, va guérir.
Voilà, donc Gaëtan peut être rassuré. Hein. Vous pouvez nous mettre un petit message, Gaëtan, pour vous dire si vous êtes satisfait de la réponse du professeur Boyan Christophorov. Enfin, moi, ça me touche quand même, un petit bout de chou de 16 mois, comme ça, qui a un ulcère de l'œsophage. Alors là, attention, hein, on parle d'ulcère de l'œsophage et pas de l'ulcère gastro-duodénal.
Oui,
voilà, hein, c'est français. Mais ça me touche, c'est quand même rare ou non ce qui arrive
c'est
au fils
rare,
de Gaëtan.
C'est rare, mais ça existe et les pédiatres savent très bien le soigner.
D'accord, bon voilà. Gaëtan, merci pour votre question. Vous faites comme Gaëtan, vous n'hésitez pas. Notre page Facebook, Sud Radio Service Compris, pour vos questions, pour vos commentaires, pour vos suggestions d'émissions aussi en matière de santé. Ce serait intéressant de voir quel sujet vous voulez voir traiter. Et puis il y a évidemment notre numéro de téléphone, le 0826 300 300 pour être avec nous dans une poignée de secondes. À tout de suite.
Sud Radio Service Compris.
Véronique Jacquier.
Allez, vite, vite, vos questions pour bénéficier du beau service compris du professeur Boyan Christophorov, gastro-entérologue. On évoque l'ulcère aujourd'hui. Donc le 0826 300 300 pour être avec nous jusqu'à 14h. Et puis notre page Facebook Sud Radio Service Compris. On accueille Rina. Bonjour Rina.
Rina. Bonjour.
Oui, c'est
bonjour,
à vous.
Rina.
Vous êtes avec le professeur. On vous écoute.
Oui, bonjour. Bonjour professeur. Je veux juste vous demander, est-ce que l'alimentation dite saine, c'est-à-dire sans apport de tous les produits chimiques, c'est bon contre l'ulcère ? Est-ce que de boire du vin qui n'est pas trop traité, tout ça, est-ce que c'est bon ?
Ah, le bio, alors, par exemple.
Écoutez, Rina, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises pour d'autres sujets, il n'a jamais été prouvé que le non-bio était nocif. Bio et non-bio, apparemment, il n'y a aucune différence. Alors que l'on préfère le bio, bah, c'est très bien, c'est une idée philosophique. Mais alors quant au vin, quand le vin est traité d'une mauvaise manière, il est mauvais. Hein, ça, il ne faut pas le boire. Alors la question appliquée à l'ulcère, non. Il n'y a pas de régime alimentaire qui favorise l'ulcère et donc il n'y a pas non plus de régime alimentaire qui vous met à l'abri.
Voilà, il n'y a pas de choses auxquelles on doit faire attention parce que de toute façon c'est pas très bon puisqu'on l'a vu c'est au départ hein, l'ulcère c'est une bactérie.
C'est une bactérie qui œuvre. C'est une bactérie qui pousse l'estomac à fabriquer beaucoup d'acide et cet acide provoque l'ulcère. L'ulcère, c'est une plaie. C'est une plaie ronde ou ovale.
Comme une plaie ouverte, finalement. C'est ça
ouverte,
qui nous fait mal.
Voilà, et qui vous fait mal. Et lorsque la cause est supprimée, petit à petit, comme toutes les plaies, elle cicatrise et les gens guérissent.
Voilà. Mais donc, quel message on fait passer là aux auditeurs de Sud Radio ? C'est intéressant, à travers la question de Rina. Est-ce qu'on fait passer le message qu'il y a une association d'idées à faire avec le type d'aliment que l'on prend ? Non, surtout pas.
C'est le contraire.
Surtout pas.
C'est le contraire.
Voilà. Hein ? Vraiment.
Il n'y a pas de régime.
C'est pas parce qu'on mange beaucoup de fibres, beaucoup de légumes, 5 fruits et légumes par jour qu'on se prémunit contre l'ulcère, ça n'a rien à voir.
Ce régime dont vous parlez est bon pour éviter les maladies vasculaires, pour éviter les tumeurs malignes, mais pour le reste des maladies, non.
Mm-hmm. Rina, ça va ? Vous êtes rassurée ?
Oui, je vous remercie.
Bon, merci Rina. Bel après-midi à l'écoute de Sud Radio. On accueille Martha via le 0826-300-300, bien sûr. Bonjour Martha.
Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai entendu là donc Rina avant, c'est ça, qui parlait d'un régime alimentaire. Moi, c'est plutôt mon régime de vie qui est en cause, puisque je travaille beaucoup, je fais des gros horaires, j'ai un rythme de vie très très stressant, très plein, je fume et je bois énormément de café, et je me demandais si c'était justement des facteurs qui pouvaient être aussi cause de d'ulcères, ou enfin si en tout cas ça pouvait le favoriser.
Alors, c'est une question autour de laquelle on tourne. Le fait de fumer beaucoup est très mauvais. C'est encore plus mauvais pour d'autres domaines que l'estomac. Mais c'est un élément négatif. L'agitation, le stress, peut jouer un tout petit peu dans le déclenchement de certaines complications, mais pas pour causer l'ulcère.
Voilà, pas à proprement parler pour l'ulcère, c'est ça. Ça ne favorise pas le terrain du déclenchement d'un ulcère.
Absolument pas.
C'est le message qu'on fait passer.
Ça n'empêche pas que vous souffriez au travail, qu'éventuellement vous ayez des brûlures d'estomac quand vous voyez votre chef qui est désagréable, mais
oui.
ça ne cause pas l'ulcère.
Voilà.
D'accord.
Martin ?
Oui, bon bah écoutez, bon. Déjà c'est rassurant, bon, effectivement, je fasse plus attention sur ma consommation en tabac et puis en café, puisque je pense que ça ne doit pas aider non plus le café.
Mais non, le café simplement ça surexcite, ça donne des palpitations, ça oui.
Bien sûr,
d'accord.
Bien sûr. Allez Martin, restez zen, hein, restez zen à l'écoute de Sud Radio. Professeur, on a évoqué l'ulcère classique dû donc à la fameuse bactérie Helicobacter pylori. Il y a d'autres ulcères qui sont plus rares. On l'a vu à travers la question d'une auditrice. Vous avez parlé d'ulcères médicamenteux quand
oui.
On prend des anti-inflammatoires. Non, pardon. Des anti-inflammatoires.
Oui, absolument.
C'est ça.
Il y a des médicaments qui donnent des ulcères, et je vous dis, c'est la raison pour laquelle quand on prend un ou deux jours d'anti-inflammatoires, c'est pas grave, mais si on doit en prendre plusieurs jours de suite, les médecins souvent vous prescrivent un autre produit. Il y a aussi des maladies très très rares qui sont des tumeurs du pancréas, qui sont des tumeurs des glandes parathyroïdes, au cours desquelles il y a des ulcères, mais ce sont des situations tout à fait exceptionnelles.
Ok. Tant mieux, oui, vraiment. On accueille Jean via le 0826-300-300. Bienvenue, Jean, sur Sud Radio.
Merci.
Oui, Jean, c'est
oui.
À vous.
Oui,
bonjour.
Écoutez, docteur, j'aurais aimé savoir si, à mon âge, j'ai 75 ans, étant donné que je suis insulino-dépendant, c'est-à-dire que je suis fortement diabétique, je suis dialysé, j'ai 4 stents dans le cœur et j'ai fait une demande pour une greffe de rein, si cela était possible.
Écoutez, il faut saluer les succès de la médecine, car si vous avez tous ces moyens de traitement, c'est qu'ils vous ont permis de vivre et ils vous donnent l'espérance de vivre plus longtemps. Vous me posez une question qui ne relève pas du sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes éligible pour la transplantation rénale, c'est cela ?
Oui.
Oui, alors c'est du domaine des néphrologues qui vous suivent. C'est vrai que plus on avance en âge et plus on a de complications et moins on est éligible. Mais cela se discute dans le centre où vous êtes suivi. Je ne connais pas tous les paramètres de votre santé.
Alors, pour rassurer complètement Jean, là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Qu'il aille.
Il va 3 fois par semaine se faire dialyser, il voit des médecins néphrologues et il leur parle. Ils vont s'expliquer.
Bah, tout simplement. Hein ?
Bien sûr.
Jean, vous suivez les bons conseils du professeur Boyan Christopherov ?
Ah, mais écoutez, je vous remercie, c'est exactement ce que je fais actuellement.
Eh bien, c'est parfait. Allez, on vous accompagne, on est avec vous par la pensée. Passez une belle après-midi à l'écoute de Sud Radio. Alors moi, je ne veux pas affoler les auditeurs, mais il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, et je les invite évidemment à faire très vite le 0826-300-300. C'est quand même les complications de l'ulcère. Parce
oui.
Que on relativise, puisqu'on met ça, non plus sur le compte du stress, mais sur la présence d'une bactérie, les complications, elles peuvent être méchantes, professeur Christopherov.
Absolument. La principale nuisance, bien sûr, c'est le syndrome de douleur qui vous empoisonne la vie. Mais il y a deux grandes complications aiguës. C'est l'hémorragie. Vous savez, on se met à vomir du sang, on a du sang qui sort par l'anus et on perd une partie de sa masse sanguine. Et le diagnostic se fait en regardant, en faisant une endoscopie. Et actuellement, on a des moyens techniques pour clamper le vaisseau qui saigne pour arrêter sans être obligé d'opérer. L'autre complication, c'est la perforation. L'ulcère est une plaie, s'il creuse trop profondément, cela peut se perforer et donner une péritonite, et qui là requiert un traitement chirurgical.
Voilà.
Bon, et puis je vous rappelle que une partie des ulcères de l'estomac, Dieu merci, une toute petite partie, peuvent donner lieu à l'apparition d'un cancer.
Oui, mais alors si on souffre d'un ulcère, ce type de complication dont vous nous parlez, hémorragie, perforation, ça arrive au bout de combien de temps? Parce que moi je me mets à la place des auditeurs de Sud Radio qui sont pas forcément hypochondriaques, mais qui ont un peu mal au ventre ou qui ont mal au ventre d'une façon récurrente, ça peut les inquiéter. Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? C'est-à-dire si on ne soigne pas un ulcère, voilà ce qui vous prend au nez?
Alors, on ne peut pas avoir de statistiques, parce que si vous dites qu'on ne soigne pas un ulcère, ça veut dire qu'on connaît l'ulcère et qu'on ne le soigne pas.
Oui.
Ce n'est pas conforme à l'éthique. Actuellement, si vous avez mal au ventre, à l'estomac, vous discutez avec votre médecin, s'il juge que cela peut être le fait d'un ulcère, on vous fait une endoscopie, on regarde, si on trouve un ulcère, on vous traite, à la fois pour cicatriser l'ulcère et pour chasser le microbe, et ensuite vous ne récidiverez plus, sauf si vous rattrapez le microbe. Bon, maintenant, complications que l'on trouve actuellement, ce sont des gens qui n'étaient pas diagnostiqués, et où la complication, l'hémorragie et l'ulcère, est un phénomène inaugural qui révèle la maladie.
D'accord. Mais la seule façon de savoir si on souffre d'un ulcère ou non, c'est l'endoscopie.
Absolument.
Voilà.
Absolument.
D'accord.
Absolument, les radiographies ne donnent pas des bons résultats.
D'accord, et il n'y a pas plusieurs degrés d'ulcère, c'est-à-dire comme vous l'avez dit, c'est une plaie ouverte qu'on a sur la paroi de l'estomac. Le médecin ne va pas dire « oh ben là, c'est un tout petit ulcère, pour l'instant on ne fait rien », non.
Non, on traite tous les ulcères, alors il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, que ceux qui sont grands et qui creusent beaucoup seront plus longs à cicatriser, mais... Le traitement est le même pour tous.
D'accord. Question d'Anne-Marie sur notre page Facebook, Sud Radio Service Compris. Alors c'est difficile hein, toujours de vous répondre quand c'est comme ça, évidemment, via notre page Facebook. On fait le mieux possible, enfin surtout le professeur, Boyan Christopherov. Et puis je vous rappelle qu'on ne peut pas non plus faire de consultation sur mesure. Hein. Donc vous prenez bonne note de ce que vous dit le professeur. Et puis après, vous allez évidemment très vite voir un généraliste ou un spécialiste si ça s'impose. C'est ça qu'on fait passer aussi comme message dans Service Compris. Donc Anne-Marie, vous dit professeur, ma tante a un ulcère à l'estomac et souffre d'horribles douleurs au ventre, maux de tête et un peu partout ailleurs. Ces crises sont vraiment insupportables. Je suis très inquiète, je me demande si c'est grave. Ma tante est pliée en deux quand elle a mal et ça me déchire le cœur. Elle saigne quand elle va aux toilettes. Alors là, direction le médecin, non ?
Oui, bien sûr. C'est beaucoup de choses et qui ne vont pas tout ensemble. Le mal de tête, bien entendu, l'ulcère de l'estomac ne fait pas mal à la tête. Pour le reste, il faut voir s'il n'y a pas une autre maladie dans le ventre, que ce soit une maladie de l'estomac, du pancréas, du gros intestin. Donc c'est un diagnostic qu'il faut faire, et plutôt que de se plier en deux en souffrant, il faut qu'elle aille voir un médecin.
Oui, mais là, enfin, si les infos données par Anne-Marie sont avérées, sa tante a visiblement un ulcère de l'estomac, donc elle a peut-être été diagnostiquée avec un ulcère. Est-ce qu'on ne serait pas en face d'un cas qui aurait des complications? Possible,
non,
peut-être non.
Non. La complication, c'est un phénomène aigu. Ça apparaît en quelques heures et les gens
se retrouvent. Ah d'accord, bon bah déjà vous rassurez les auditeurs, c'est une bonne chose, hein, vous rassurez Anne-Marie.
Il faut savoir si réellement on a trouvé un ulcère, si cet ulcère est un ulcère bénin et non pas une tumeur maligne, et puis surtout il faut regarder s'il n'y a pas une autre maladie qui est responsable de ce trouble.
Vite, le 0826-300-300 pour profiter du service compris, puisqu'on parle de l'ulcère avec le professeur Boyan Christopherov. C'est quand même pas tous les jours que vous avez un médecin comme ça à votre disposition. Hein. Allez, faites honneur à sa belle expertise sur Sud Radio. On accueille Mohamed. Bonjour Mohamed.
Bonjour Sud Radio.
Bonjour.
Voilà, je vous présente mon tableau clinique, perforation de l'ulcère avec péritonite générale il y a quelques années. 4 sorties de drainage. Et maintenant, c'est difficile la digestion. Il y a l'apparition des sueurs et beaucoup d'autres choses. Est-ce que c'est normal, ça?
Écoutez, on revient un peu au cas précédent. La perforation d'ulcère, c'est une maladie aiguë. On répare, on recoue l'ulcère, on draine, on nettoie le péritoine et d'où les drains. Et puis ensuite, on soigne l'ulcère par les médicaments appropriés. Que vous ayez mal à distance avec des sueurs, je crois que là aussi, comme pour la personne précédente, il faut prendre conseil d'un médecin, il faut faire un certain nombre d'examens, s'assurer que l'ulcère n'a pas récidivé, ce qui est possible mais peu probable, ou s'il n'y a pas autre chose. Est-ce que vous avez maigri ?
Non.
C'est plutôt un élément favorable, mais je crois qu'il faut, reposer la question aux médecins qui vous suivent.
D'accord.
Oui, Mohamed.
Merci
vous,
beaucoup.
Vous restez vigilant. Oui, merci Mohamed et bon courage, évidemment. On accueille Dominique sur Sud Radio. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour, merci de me prendre à l'antenne. Voilà, ma question est la suivante. Régulièrement, lorsque j'ai subi des interventions chirurgicales, plus ou moins anodines, on va dire, on m'a prescrit un médicament qui s'appelle Bipropionide, et à chaque fois, ça me déclenche des problèmes d'ulcères, des symptômes ulcéreux, donc c'est-à-dire le trou dans le ventre qui se calme simplement, évidemment, qu'avec en mangeant, etc. Et je voudrais savoir s'il y a ces fameuses bactéries qui sont sous-jacentes en permanence dans mon estomac, voilà, donc c'est une première chose, et je suis traité avec de l'exométrazole régulièrement pour ces problèmes d'estomac. Voilà, j'aimerais avoir un petit avis concernant cette pathologie.
Alors la question, c'est de savoir si vous avez vraiment une ulcère ou si vous avez des douleurs d'estomac à l'occasion de la prise d'anti-inflammatoires. Alors s'il y avait un ulcère, bien sûr, il faut que vos médecins vous soignent. Et si on sait porteur d'un ulcère, on sait aussi si on a l'hélicobactère. Mais dans la plupart des cas, l'administration d'anti-inflammatoires entraîne des brûlures d'estomac. Eh bien, il faut essayer de ne pas en donner, d'en donner à bon escient et de protéger cette prise par le médicament que vous avez cité.
Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment une alternative aux anti-inflammatoires ?
Ça dépend. Quelquefois oui, quelquefois non. Quand on le sait et qu'on veut l'éviter, on peut réduire leur utilisation au minimum.
Donc Dominique doit prendre son mal en patience là. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste zen.
Il discute avec les médecins en disant pourquoi on lui donne. Parce que quand on fait une intervention chirurgicale, on n'est pas obligé de recevoir des anti-inflammatoires. Ça, c'est pas.
Ah oui, d'accord.
Si les anti-inflammatoires le font souffrir.
Oui.
J'ai été opéré des tendons du coude récemment. Et en fait, on m'a encore, malgré mes contre-indications, on m'a prescrit le même produit anti-inflammatoire. Et ça, je trouve ça complètement anormal.
Eh bien, il faut discuter avec le médecin de savoir si vraiment il est sûr et il faut discuter. Je ne suis pas compétent pour savoir
D'accord.
si l'intervention sur le tendon requiert l'anti-inflammatoire. Mais de toute façon, ce sont des administrations de courte durée. Donc, ensuite, on est calmé.
Voilà,
oui,
Dominique.
Après, mais bon, ça, la question qui était également, c'est, ça veut dire, est-ce qu'il y a une sensibilité qui restera à vie ou est-ce que c'est un problème qui doit se traiter avec simplement pour ces symptômes-là, savoir si la bactérie est là.
Mais est-ce que vous avez eu l'examen, la gastroscopie ?
Non.
Il y a aussi une autre. Bah voilà, il y a une autre façon de chercher la bactérie, c'est le test respiratoire. C'est compliqué à vous
D'accord.
dire, mais on vous fait boire un liquide, on vous fait souffler dans une machine et elle vous dit il y a l'hélicobactère ou il y en a pas.
Ah,
voyez,
mais ce test est fiable. Okay. Ce test est fiable.
Parfaitement fiable.
Ah d'accord. Bon voilà, vous avez les deux bonnes infos, hein, Dominique. Hein.
J'ai une bonne piste, voilà, c'est sympa. Merci.
Merci Dominique, deux bonnes infos, le test respiratoire et l'endoscopie, on n'y coupe pas, hein, malheureusement,
souvent,
professeur.
Souvent.
Voilà, voilà. On rappelle pour ceux qui auraient pris l'émission en cours de route qu'on a évoqué l'ulcère et que ce n'est pas dû au stress, jamais, c'est dû à une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Hein, voilà, vous voyez, j'ai appris beaucoup de choses et je suis sûre que les auditeurs de Sud Radio en ont appris autant que moi aujourd'hui. Merci infiniment professeur, la semaine prochaine, on va traiter un super sujet là encore, hein, puisqu'on évoquera, vous allez nous donner vos bons conseils, puisqu'il y a des auditeurs qui commencent à chercher leur destination pour les vacances, hein, leur destination dans le monde. Vous allez nous passer en revue un petit peu les maladies qu'on risque d'attraper si on n'y prend pas garde, et vous nous donnerez vos bons conseils, hein, en termes de vaccination et autres.